partir du moment où j'achète votre livre, vous faites partie de la famille. Et faire partie de la famille, cela veut dire que vous n'attaquerez plus jamais aucun de mes auteurs.
Je dois garder mon indépendance, monsieur.
Votre indépendance?
Oui.
J'ai acheté la moitié des critiques de la partie. Alors ne me parlez pas d'indépendance.
Histoire 2.
Si nous faisons affaire ensemble, je voudrais avoir mon mot à dire sur le papier, la typographie, les illustrations.
Oui. On m'a dit que cela avait été votre premier métier.
J'étais orphelin, il fallait vivre.
Oh, c'est très très émouvant. Avez-vous pensé en faire un roman? Ah oui, l'orphelin d'Angoulême. On le jette dans Paris, il perd pied, il se noie. Et puis, pas idiot, il observe, il apprend. Mais se souviendra-t-il qu'il avait de plus nobles ambitions?
Patrick Boucheron sur France Inter.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est à n'y rien comprendre. Je croyais que nous vivions l'après-littérature, que les historiens ne faisaient plus aucun cas d'une vision littéraire du monde, que les classiques endormaient les écoliers, bref, que ça n'imprimait plus. Et voilà que j'apprends que l'audience Germinal sur France 2 dépasse la France à un incroyable talent sur M6. Plus de 4 millions de téléspectateurs pour le premier épisode diffusé ce mercredi 27 octobre. Que se passe-t-il aujourd'hui avec Zola? Qu'avons-nous à nous enticher à nouveau de Balzac? Après Eugénie Grandet, voici Illusion perdue, qui triomphe au cinéma grâce au somptueux film de Xavier Giannoli, mais aussi au théâtre, dans l'enthousiasmante adaptation de Pauline Bail. Nous les recevons l'une et l'autre à Histoire 2, et nous en sommes très heureux. Parce que Pauline Bail fait autant confiance au théâtre que Xavier Giannoli se livre corps et âme au cinéma. Et parce que l'un comme l'autre savent que les grands textes n'ont pas besoin d'être dépoussiérés, comme on le lit parfois dans les journaux. Ils se débrouillent très bien tout seuls, les grands textes, pour secouer leurs vieux habits. Avec Balzac, on va le voir, ça secoue, car le grand spectacle auquel il nous convie est celui de notre modernité. Vivons-nous à nouveau un moment balzacien? C'est la question que l'on se pose aujourd'hui avec Pauline Bail et Xavier Giannoli, bientôt suivi par notre sociétaire du jour, Pascal Horry. Pauline Bail, Xavier Giannoli, bonjour.
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 À quel âge vous avez lu Les Illusions perdues?
À peu près à l'âge de Rubin Prêt, vers 19 ans.
19 ans. Ouais. Et vous, Pauline?
Moi, c'est mon premier amoureux qui me l'a offert quand j'étais en seconde, donc j'avais 16 ans.
Ah.
Il s'appelait Lucien.
On va commencer par donc la plus jeune dans la lectrice, Pauline Bail. Vous êtes comédienne et metteuse en scène au théâtre. On vous a remarqué par vos adaptations de l'Iliade et de l'Odyssée en 2015, mais aussi en 2019, de Chansons douces avec la formidable Florence Viala, donc de Homère à Leïla Slimani. C'est un bel éclectisme que vous prolongez donc avec Balzac. Vous l'aviez pas, ça vous avait pas ennuyé à l'école d'abord?
Ah non, pas du tout.
Pas du tout.
Pas du tout. En fait, j'avais d'abord lu Le Père Goriot et j'ai découvert avec Illusion perdue un autre versant en fait de Balzac. Il y a une énergie en fait. C'est ce qui m'était resté et d'ailleurs c'est ce qui est resté encore en y revenant 15 ans plus tard. Une énergie dans son écriture, dans à la fois dans ce qu'il raconte et la manière dont il raconte, qui m'avait mais époustouflé, complètement entraîné et avec une très forte une capacité d'identification avec envers la jeunesse, quoi.
Oui.
Je faisais déjà du théâtre, forcément tout ça me parlait beaucoup sur les idéaux et la réalité, et confronter les deux.
Et vous, Xavier Giannoli, vous dites bien que ce film, vous en rêviez depuis bien longtemps, c'est de loin pas votre premier, on connaît votre magnifique filmographie, mais au fond, ce roman, c'est particulier pour vous, Illusion perdue, ça a fait effraction dans votre vie à 19 ans.
Oui, j'ai eu la chance d'avoir un professeur quand je faisais des études de lettres, des études assez modestes, mais des études de lettres quand même. Et j'ai eu la chance de tomber sur un grand professeur qui est devenu un grand balzacien.
Philippe Berthier, c'est ça?
Et voilà, et donc c'était très impressionnant la façon dont il faisait vibrer l'œuvre. Et puis peut-être je suis un garçon, l'aventure d'un jeune garçon... sa solitude face à un monde qu'il fascine et qu'il menace en même temps. C'était... Il y avait une sorte d'intimité, comme un talisman aussi. L'impression que Balzac vous donne une clé de lecture du monde.
Des choses de ma vie traversent le roman, avez-vous dit, Xavier Giannoli, dans un entretien au Figaro. Ça veut dire qu'il y a plus, évidemment, que la beauté littéraire, que l'histoire. il y a une identification, avez-vous dit, Pauline Bayle, et peut-être davantage encore, finalement, tous vos films, Xavier Giannoli, pourraient s'appeler L'illusion perdue.
Oui, c'est possible. Il y avait cela, et puis il y avait des choses plus affectives, plus secrètes, voilà, plus personnelles, qui sont peut-être la raison d'ailleurs pour laquelle j'avais cette espèce pendant toutes ces années de compagnonnage avec ce livre.
Pauline Bayle, vous parlez évidemment de votre adaptation, on va parler de vos choix esthétiques à l'un et à l'autre. Elle parle bien sûr de la cruauté de ce monde, mais d'abord de son énergie.
Oui, c'est vrai que je trouve qu'il y a ce qui m'avait... Moi, je me suis vraiment concentrée, comme je crois le film aussi d'ailleurs, sur la partie des Illusions perdues qui se déroule à Paris. Et c'est vrai que il y a quelque chose que je trouvais étourdissant, enfin une valse étourdissante d'une découverte, d'une initiation dans une arène, une jungle que le personnage principal ne connaît pas. Et il y a... C'est comme si les montagnes russes, en fait, cette impression-là de lecture m'était restée très forte. Et effectivement, j'ai essayé de creuser ça. Et en fait, ce qui je trouve très beau, c'est qu'il est vraiment lancé à la poursuite d'un rêve.
Oui.
Cet élan-là, pour accomplir ce rêve, il va être prêt à tout. Mais cet élan-là, il me touche beaucoup.
Alors, je l'ai dit, vous faites pleine confiance au théâtre. Vous allez avoir 5 comédiens qui vont enrôler plusieurs personnages, une vingtaine, sur un ring, comme véritablement un combat social. Et vous, Xavier Giannoli, dans ce film fastueux, magnifique, avec un casting extraordinaire, vous êtes confronté au même problème, finalement, parce que c'est un roman monde, dans une œuvre monde, ça fait 700 pages ou plus, 70 personnages. L'un comme l'autre, vous n'en prenez que le cœur, finalement, que le deuxième livre, que l'histoire d'un grand homme de province à Paris.
Oui, c'est le livre central qui s'appelle Un grand homme de province à Paris, et qui commence, pour aller vite, par le départ d'Angoulême, de ce jeune homme, ce jeune provincial, aimanté comme toute une génération à l'époque par le miroir aux alouettes, on dirait aujourd'hui parisien. Et ça va se terminer avec son départ de Paris, pieds nus d'ailleurs, pour revenir dans sa province après avoir traversé les enfers, d'une certaine façon. Et voilà, en fait, dans les trois parties du roman, c'est évidemment celui qui a le plus de force et puis tout simplement de résonance avec notre époque.
Vous avez fait un film de gangster, en fait, Xavier Giannoli, vous qui êtes un admirateur du cinéma de Scorsese.
De toute façon, tous les cinéastes sont admirateurs du cinéma de Scorsese.
Oui, mais vous particulièrement.
Ça doit être le chrétien tumultueux en moi, qui voit une résonance dans ces personnages victimes d'eux-mêmes. Ce qui est un peu le cas de Rubin Pré, d'ailleurs, aussi. En fait, la question que vous posez, c'est... d'une certaine façon, une question morale, en fait, quoi, qui est qu'est-ce que ce personnage est prêt à abandonner de lui-même, de ses idéaux et de ses valeurs pour trouver sa place dans Paris. Et c'est tout l'enjeu de l'œuvre.
Et l'enjeu de l'adaptation de l'œuvre, Pauline Bayle, c'est intriguant parce que, effectivement, c'est un spectacle total que ce roman. Illusion perdue, qui n'est pas du tout, d'ailleurs, pour celles et ceux qui ont la chance de ne pas l'avoir lu, à l'image de l'idée qu'ils peuvent se faire de Balzac, d'interminables descriptions. Il faut dire que c'est un roman qui cavale, il y a plein de dialogues. Donc pour vous, femmes de théâtre, ça vous allait. Mais en même temps, Philippe Berthier, qui fut votre professeur à la Sorbonne, Xavier Giannoli, disait « c'est quand même une littérature d'œil, de regard ». Alors comment on fait au théâtre pour ramener tout ça sur une scène, sur un plateau nu, avec un théâtre à nu, comme le vôtre?
En fait, moi, il y a une chose qui était vraiment formidable pour le théâtre, c'est effectivement les dialogues. C'est quelque chose qu'on connaît pas, enfin, qui est un peu moins connu des gens, parce qu'on connaît beaucoup les descriptions de Balzac, mais les dialogues sont vraiment plus très très incarnés. C'est vraiment de la chair, quoi. Donc ça, pour le théâtre, évidemment, c'est formidable. Après, c'est vrai que quand on lit Les Illusions Perdues, quand on lit le roman, Balzac lui-même, et particulièrement dans Les Illusions Perdues, je trouve, prend une place qui n'est pas démontrée. moindre. Le narrateur fait part au lecteur d'un certain nombre de jugements. Ça, c'est vrai que moi, je me suis attachée à me remettre dans... En fait, ce que je voulais, c'était m'attacher à Lucien et ne pas le quitter d'une semelle et avancer avec lui pas à pas, sans jamais avoir d'avance sur lui, sans jamais... parce que Balzac, il peut pas s'empêcher de nous dire ce qui va se passer, en fait. Et moi, je voulais qu'au fil du spectacle, qui dure 2h30, on soit vraiment pris dans ce présent-là, qui est donc le présent de la représentation, qui est aussi le présent de Lucien, et investir ce présent-là des enjeux vitaux qui sont la réussite ou l'échec de ce jeune homme lancé à la poursuite de son rêve.
On ne quitte pas Lucien, qui d'ailleurs est incarné par une jeune actrice formidable, Jenna Thiem, qui est la seule au fond à ne pas changer de rôle dans cette comédie humaine. Les personnages ne sont pas stables, ils évoluent en fonction du regard que portent sur eux d'autres personnages. Madame de Bargenton est une reine pour Lucien quand il est à Angoulême, elle devient un os de sèche à Paris. C'est pour cela, effectivement, Pauline Bell, que vous avez souhaité que ça aille si vite, que ça secoue. Je parlais de secouer la poussière, mais là, ce sont les corps qui s'entrechoquent et qui tapent sur la scène pour que la poussière se soulève.
Oui, alors sur la versatilité des points de vue, ça c'est vrai que c'est quelque chose qui me passionne dans le roman, qui je trouve est vraiment foncièrement génial. Et en fait, le fait que les comédiens interprètent plusieurs rôles, ça me permettait qu'on sache jamais trop, qu'on soit toujours sur le qui-vive. Quand quelqu'un entre en scène, on ne sait pas s'il va œuvrer à la gloire ou à l'échec de Lucien. Et ce qui-vive là, qui est celui de Lucien en fait, parce qu'il ne sait jamais à quelle sauce il va être mangé, ça m'intéressait. Et effectivement, moi, l'apprentissage intellectuel me passionne beaucoup. Je trouve que comment est-ce qu'il, Lucien, va apprendre la complexité du monde pour en faire commerce et pour vendre, enfin, utiliser ça au service de sa propre ambition, ça, je trouve que c'est vraiment passionnant, mais c'est vrai qu'à un moment, on a besoin que ça devienne physique, d'où cette scène très, très de danse collective comme un rite initiatique où Lucien est vraiment incorporé à la communauté des journalistes, qui était absolument nécessaire pour parachever, disons, le mouvement d'intégration qu'il a connue pas à pas depuis son arrivée à Paris.
Je voudrais vous livrer à tous les deux, pour terminer cette première partie de l'émission, une phrase de Balzac qui vous bouleverse, dites-vous Xavier Giannoli. Elle se trouve dans sa correspondance. Elle correspond bien, au fond, à cette œuvre et au-delà. Je pense à ceux qui doivent trouver en eux quelque chose après le désenchantement. Pourquoi ça vous touche ?
Cette phrase a une vérité humaine qui peut-être correspond à quelque chose qui a à voir avec les âges de la vie. Moi, toute l'idée, c'était que je ne voulais pas que la perte des illusions soit une initiation par la perte et l'échec, mais c'est simplement une autre vie. Voilà, l'illusion est nécessaire à la vie, qu'elle soit politique, amoureuse, évidemment littéraire ou cinématographique, et en même temps, la reconnaître en tant qu'illusion... c'est peut-être avoir un contact plus charnel à la vie, moins innocent. Voilà.
Après le désenchantement, Pauline Bell, c'est ça aussi le théâtre ?
Oui, c'est certain que on passe tous, c'est vraiment lié à la condition, enfin, le fait de grandir, quoi, la condition humaine, d'être désenchanté de ce qu'on pouvait imaginer, des illusions qu'on pouvait avoir. Après, tout l'enjeu est de qu'est-ce qu'on fait de ce désenchantement, comment est-ce que on reste fidèle à son rêve de départ et tout en trouvant comment pas se trahir. Et sans être non plus désabusé et cynique, c'est très beau, effectivement. La question est là pour Lucien, et bon, il va faire un choix qui est le sien à la fin des illusions, mais il aurait pu faire un autre choix.
Histoire 2. Patrick Boucheron sur France Inter.
Après le disque, on vous retrouve, Pascal Horry, pour parler de journalisme, parce que ça parle de ça, hein, les illusions perdues, mais du journalisme d'hier ou d'aujourd'hui ?
Comme on parle d'un film et d'une pièce de théâtre d'aujourd'hui, à mon avis, on parlera beaucoup d'aujourd'hui en faisant semblant de parler d'hier.
Ah on va faire ça.
It's dark but just a game, that's what he would say to me. The faces aren't the same, but their stories all end tragically. Sweet, why would I have a baby? And that's the price of fame. A tale as old as time you'd be.
minds, so I'm not gonna change. I'll stay the same. No rose left on the vines. Don't even want what's mine, much less the fame. It's dark, but just a game. The best ones lost their minds, so I'm not gonna change. I'll stay the same. No rose left on the vines. Don't even want what's mine, much less the fame. It's dark, but just a game. We keep changing all the time. The best ones lost their minds.
Qu'est-ce qu'un classique, se demandait Italo Calvino. Ben, c'est un livre qui n'a jamais fini de dire ce qu'il avait à dire. Si on le lit pour la première fois, on l'a déjà lu. Si on l'a déjà lu et qu'on le relit, on le lit pour la première fois. C'est évidemment le cas de Illusion perdue. Nous avons la chance aujourd'hui de recevoir Xavier Giannoli, dont le film Illusion perdue est à l'écran depuis le 20 octobre, et qui est somptueux, comme est somptueuse la mise en scène de Pauline Bayle, Illusion perdue également, qui était au Théâtre de la Bastille à Paris, mais qui maintenant est en tournée jusqu'en juin, le 9 novembre à Saint-Cloud, le 16 à Épernay, le 23 à Évreux, et la suite est suivante. Sur notre site. Alors, Pascal Horry, ça parle de journalisme, les illusions perdues, mais ça parle d'un journalisme particulier, celui qui est révolutionné par le moment 1836.
Oui, en tous les cas, c'est un journalisme qui maintenant s'impose dans la société, en particulier la société politique, mais aussi la société littéraire, parce que dans le roman comme dans le film de Xavier Giannoli, on voit bien qu'il s'agit de faire ou défaire des réputations, mais pas simplement sur le plan politique ou social ou mondain, mais également, on dirait aujourd'hui, culturel, et que tout ça serait quand même manipulé. Et c'est assez impressionnant de voir que c'est déjà dans un roman, effectivement, de la fin des années 1830. Je suis pas sûr que ce soit tout à fait le premier, mais c'est le premier grand roman dont les types sociaux s'appellent un journaliste, un directeur de journal, un imprimeur, un éditeur, un libraire. On n'a pas l'habitude de voir dans les romans ce genre de personnage. Et bien entendu, ça dit quelque chose sur ce que notre regretté confrère Dominique Khalifa a appelé la civilisation du journal, et d'ailleurs il a sous ce nom dirigé un énorme livre qui avait
aux éditions Nouveau Monde,
qui avait comme co-directeur Philippe Berthier, auquel on rendait hommage tout à l'heure. C'est pas encore tout à fait l'apogée, mais c'est déjà le triomphe du journal.
Alors, oui, et pardon, mais puisque vous parlez d'un professeur, le roman commence en 1821.
Oui, oui.
Donc mais on est avant 1830.
Oui, oui. Ça se passe même en 1821. Oui. Donc, et c'est autobiographique d'une certaine façon, parce que ça correspond à peu près au moment où Balzac va tester successivement le rêve de l'écrivain, qui est obligé, et visiblement pour lui c'est une dégradation en place publique, de devenir journaliste, oui, alors qu'il se rêvait écrivain. Vous voyez la différence, l'énorme nuance pour Balzac et pour beaucoup. Et puis qui va être à un certain moment imprimeur, libraire.
Donc, il a compris que la librairie ne nourrissait pas son homme.
Il est clair que c'est un roman qui a plusieurs dimensions, qui le rend de plus en plus complexe, voire ambigu, voire équivoque. Hein. Et ce sont des compliments que je viens de te dire, hein, avec ces adjectifs-là. En particulier, il règle ses comptes aussi, Balzac. Hein. Comme ça s'est mal passé à ses yeux, à ce stade-là, bon, il y va, franchement. Mais en même temps, ça le rend sans doute particulièrement lucide sur ce qu'il considère déjà à l'époque, mais il est peut-être pas le premier, mais un des premiers, et certainement pas le dernier, l'état du journalisme, mais c'est d'ailleurs l'état de la société.
Alors, l'action se déroule à partir de 1821, mais le livre est rédigé entre 1837 et 1843, en trois livres en fait, et précisément après que Émile de Girardin ait créé, au fond, on peut dire la presse moderne, Pascal Horry, avec aussi le roman feuilleton et toutes ces formes journalistiques qui vont d'une certaine manière s'imprimer dans le roman.
On peut le dire d'autant plus qu'on sait maintenant, entre autres grâce aux travaux de collègues comme Dominique Khalifa, que tout ne commence pas avec Gérardin. Mais Gérardin maîtrise mieux ses instruments, en particulier, puisque c'est explicite chez Balzac et dans le film de Xavier Giannoli, la publicité, c'est-à-dire la dimension économique, qui est très bien perçue par Balzac. Faut pas oublier que Balzac, dont l'opinion politique est difficile à situer, mais n'est certainement pas révolutionnaire, c'est tout ce qu'on peut dire, même grosso modo, quand il va plus loin dans les détails, il est clairement monarchiste, réactionnaire.
Surtout dans les années du
1800. Mais dans les années où il écrit Illusion perdue, il est quand même plutôt un opposant, entre guillemets, de droite de la monarchie de Juillet, mais ça a fasciné, comme vous le savez, les marxistes, en particulier Pierre Barberis, hein, le grand historien de la littérature marxiste français des années 1960-70, avait fait de Balzac son sujet presque exclusif.
Et Pauline Bayle, d'ailleurs, dans vos entretiens, vous citez Georges Lukács, qui, dans son livre Balzac et le réalisme français, a mis en lumière justement une lecture marxiste de la marchandisation de l'esprit à l'époque de la monarchie de Juillet.
Et je trouve brillant, enfin, c'est vrai que quand à la lecture, on se dit que Balzac est visionnaire dans l'impact que le capitalisme va avoir sur la production de l'esprit, en fait. Comment on va pouvoir faire commerce des idées, en fait. Que ce soit en étant poète, en étant journaliste, en étant dramaturge, comme Raoul Nathan, il y a quelque chose de visionnaire, parce qu'effectivement, il écrit ça à la fin des années 1830, ça se passe en 1821, donc c'est une ébullition totale. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose, en fait, qui, moi, me fait beaucoup penser à un esprit américain du self-made man, où en fait tout est possible, et il se trouve que la qualité de Lucien, son désir, c'est d'être poète, mais il voudrait être forgeron, enfin tout serait possible, en fait c'est l'ambition d'un homme qui se trouve rêve d'être poète et qui va se lancer à la poursuite de ça en faisant commerce de...
On n'est d'ailleurs pas sûr que ça soit un bon poète, hein, Xavier Giannoli.
Mais on est presque sûr du contraire.
Mais vous savez pourquoi ça commence en 1821? Parce que moi je me suis beaucoup interrogé, pourquoi 21 et pas 20? Parce que c'est la mort de Napoléon.
Oui.
Et d'ailleurs, il s'appelle Lucien comme un frère de Napoléon. Et il va d'ailleurs, dans le Sénat, qui va s'appeler, le personnage va s'appeler Daniel. En fait, il joue avec beaucoup des frères de grands personnages historiques. Et en fait, il veut faire le portrait d'une génération de provinciaux qui, pour suivre l'exemple de l'empereur, vont monter à Paris, persuadés qu'ils vont pouvoir s'inventer un destin. L'image, l'ombre de Napoléon va peser très très lourd sur toute cette génération.
Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est Balzac lui-même.
Oui, bien sûr.
L'admiration de Balzac pour Napoléon est claire. Et c'est ça qui rend d'ailleurs l'œuvre intéressante.
Être journaliste, c'est passer proconsul dans la République des Lettres, lit-on dans Illusion perdue. Qui peut tout dire arrive à tout faire. Cette maxime est de Napoléon. Et se comprend. Sur ces rapports entre journalisme et littérature, au fond, écoutons un extrait du spectacle de Pauline Bayle.
Le journalisme, c'est le seul salut pour les jeunes auteurs comme nous.
C'est tout l'inverse. Le journal est le châtiment des écrivains. Les éditeurs nous paient de peur d'être attaqués. Les acteurs nous paient de peur qu'on les ignore, parce que le silence est ce qu'ils redoutent le plus. Comprenez que la polémique est le piédestal des célébrités, et que pour cette raison, tous ont besoin des journaux. Et j'avais dans mes cartons une grande tragédie, j'étais bon. J'avais le cœur pur.
Mais si vous haïssez votre métier, pourquoi continuer?
Parce que je gagne 150 francs par mois et que je commence à passer pour une personne redoutable. Bientôt, au lieu de vivre au crochet de ma maîtresse et de son droguiste, je serai dans mes propres mains. Je passerai dans un grand journal, j'écrirai un grand feuilleton et enfin, je deviendrai un grand homme.
Il ne tient qu'à vous d'être ce grand homme aujourd'hui. Votre destin est entre vos mains. Battez-vous et vous triompherez.
On voit bien que vous êtes neuf. En dehors de notre monde, personne ne connaît l'horrible odyssée par laquelle on arrive à la gloire. Pour réussir, il faut que concordent 1000 accidents. Et vous ne trouverez jamais deux personnes parvenues par une même voie. Cette gloire tant désirée est presque toujours une putain couronnée. Vous me faites pitié, je me vois en vous, comme j'étais. Ne pensez pas que mes paroles sont guidées par la jalousie. Entendez plutôt le désespoir du damné qui ne peut plus quitter l'enfer.
La littérature du 19e siècle ne peut que gagner à être lue à la lumière du périodique, écrit Marie-Ève Terenti dans sa thèse justement sur les rapports entre journalisme et littérature dans ces années où tout s'invente, y compris le roman Pascal Horry, et où, au fond, ce qu'elle montre bien, c'est que, comme vous le dites justement, vous le disiez tout à l'heure, on a un roman qui met en scène à la fois les ambivalences de Balzac lui-même dans son identité de romancier, et qui n'est pas le seul, parce que elle en a compté, je crois, 130, des journalistes écrivains, qui tous, d'ailleurs, écrivent des romans à la mode des Illusions perdues. Mais il n'y a que les Illusions perdues qu'on lit aujourd'hui, Pascal Horry.
Oui, c'est un peu plus tard que Sainte-Beuve, le critique, aura cette formule qui paraît très 21e siècle, la littérature industrielle. C'est-à-dire que le roman feuilleton, mais pas seulement le roman feuilleton, les physiologies, etc., il y a des genres qui naissent à ce moment-là qui sont, par définition, liés à un support qui serait le journal. Ce qui est toujours d'actualité. Évidemment, vous remplacez éventuellement le mot journal par autre chose aujourd'hui. Hein. Mais c'est à peu près la même logique. Alors, il faut préciser aussi que, moi, ce qui me paraît assez radical chez Balzac, et on retrouve ça chez Xavier Giannoli, c'est que il attaque, de fait, enfin, c'est ma traduction, hein, bien sûr, la religion culturelle. Parce que dans la religion culturelle, bon, grosso modo, il y a beaucoup de médiocres ou de pourris, mais les artistes s'en sortent, au sens oui. large. Ben là, non, ils ne s'en sortent pas tellement, les écrivains, les écrivaillons, les... Hein, donc. Et ça me paraît assez remarquable. C'est pas si fréquent que ça. Hein.
Oui, parce que les canards, dont on apprend effectivement dans votre film, Xavier Giannoli, que ce sont ben, les ancêtres des fake news, en fait... Ben justement, il n'épargne pas la critique théâtrale et d'une certaine manière, ben c'est un jeu de massacre dans votre film, Xavier Giannoli.
Au fond, on ne respecte plus rien dans le livre d'autre que la loi du profit. Donc à partir du moment où ces petits journaux, parce qu'en fait il faut quand même préciser que les journaux dont on parle, ce n'est pas la grande presse de l'époque. En fait, il y avait des lois très libertaires qui ont autorisé l'apparition de petits journaux qui vendaient à 3 000-4 000 exemplaires, jamais plus que ça. Et ils pouvaient faire trembler tous les patrons de théâtre. Et Balzac décrit ces espèces de mafieux, on pourrait dire, qui sont prêts à vendre leurs plumes pour détruire un spectacle ou au contraire en dire du bien.
On voit avec émotion d'ailleurs le dernier rôle de Jean-François Thévenin que vous avez inventé.
Hein, non, c'est un personnage qui existe. J'ai inventé son nom. Moi, je l'ai appelé Saint-Galli parce que dans le roman, il s'appelle Brolard.
Mais il y en a plusieurs dans le roman qui
oui,
sont
mais
ces
aboyeurs de
salle. Oui,
mais il y en a un qui est Brolard, qui est claqueur. En fait, c'est des gens qui ont payé pour applaudir les spectacles ou au contraire pour les siffler. Son
c'était
propre
un
spectacle,
métier, hein.
Celui d'à côté. Mmh. C'était un métier. Tout est à vendre, en fait. Mais cette phrase est extraordinaire. Toute réputation est une putain couronnée. D'ailleurs, le roman Un grand homme de province à Paris, cette partie s'achève sur la vision d'une prostituée qui s'appelle Bérénice.
Oui. Vous voyez, et ce qui est formidable dans votre film, c'est qu'on comprend très bien que ce tournant journalistique de la littérature, au fond, elle s'imprime. Elle imprime dans la littérature, bah, justement, les traits physiologiques, la caricature, mais aussi une sorte d'incertitude du jugement littéraire lui-même, comme on l'entend dans cet extrait.
Si le livre est émouvant, tu dis qu'il est complaisant. S'il a un style classique, il est académique. S'il est drôle, il est superficiel. S'il est intelligent, il est prétentieux. S'il est inspiré, il est racoleur. Et puis tu déroules.
Si le récit est bien construit,
il est prévisible.
Si l'auteur a du style, c'est pour cacher qu'il n'a rien à dire.
Et puis tu peux t'en prendre à la longueur aussi. Ça fait toujours mal ça. Tout est toujours trop long. Donc confus, pas maîtrisé. On comprend pas où l'auteur veut en venir. Est-ce que lui-même le sait d'ailleurs, non?
Et en même temps, si c'est maîtrisé, ça manque de folie.
Et si c'est fou, c'est incohérent.
Vous avez écrit, Xavier Giannoli, vous avez déclaré dans un entretien, pour moi, le rire de Vincent Lacoste est l'un des sons les plus magnifiques du cinéma contemporain.
Oui.
Je confirme.
Oui, il a un rire extraordinaire, vraiment. C'est un rire qui exprime en même temps un sentiment de... C'est une des choses les plus touchantes dans le roman, c'est la peur de passer à côté de sa vie, d'être dépossédé de soi-même et de son élan intime par une époque et les choses comme elles vont. Et Vincent Lacoste, dans le film, il incarne cet homme qui est passé à côté de sa vie et qui essaye de récupérer ça avec une forme de panache et de cynisme. Et souvent, j'ai peur qu'aujourd'hui, on soit en train de vivre, il s'appelle Lousteau, le personnage, dans un monde de Lousteau, où finalement oui. tout le monde renonce et tout le monde traite cela par le cynisme et l'idée de se dire, oh, de toute façon, l'aquabonisme.
Mais voilà. Justement, Pauline Bayle, comment on fait quand on est artiste, comme vous, pour, j'allais dire, contrôler cet effet immédiat d'identification? Ça parle de journalisme, ça parle de corruption, ça parle de politique. Donc, on va dire, ça parle de nous, mais oui et non, d'une certaine manière. Comment vous mettez à distance, comment vous séparez ce passé de l'espace de la représentation?
En fait,
alors que ce n'est pas une pièce à costume, il faut le dire, elle est immédiatement de plein pied avec nous.
Oui, oui, en fait, c'est sûr que d'un point de vue intime pour moi, mais aussi pour les comédiens, parce que on a tous une petite trentaine d'années, donc tout ça, ce que racontent les Illusions perdues, c'est des souvenirs qui sont pas très lointains. C'est vrai que ça a provoqué un élan intime, je dirais, oui, une connexion intime avec les enjeux. Mais ce que je trouve passionnant dans ce roman, c'est que c'est la description d'un milieu, en fait. Ça aurait pu être encore un tout autre milieu. Là, il y avait comme une forme de complicité naturelle, parce que oui, les enjeux qui traversent sont forcément des enjeux qu'on a tous traversés, enfin, des dilemmes moraux, éthiques, sur qu'est-ce qui est juste de faire, ou voilà. Mais après, on s'est attaché, notamment dans le travail sur le texte, pour endosser cette histoire qui est quand même épique, vraiment, et qui est une tragédie. Enfin, c'est du coup, à partir de ce moment-là, en fait, ça aurait pu parler de d'un tout autre milieu. Le travail aurait été exactement le même. C'est pas parce que ça parle d'artiste que c'est plus facile à jouer, du tout.
Pascal Lahorie, pour terminer, vous qui êtes un historien du contemporain et un historien de la culture contemporaine, qu'est-ce que vous pensez de ce moment balzacien? Vivons-nous, c'est le titre de cette émission, un moment balzacien?
Il est vraisemblable qu'un certain désenchantement, le mot a déjà été prononcé plusieurs fois, à l'égard du monde politique, parce que dans la pièce de théâtre ou dans le film, il est question effectivement du monde politique aussi, à travers cette loupe grossissante que sont ce qu'on appellerait aujourd'hui les médias. Il y a ce désenchantement. Je voudrais quand même signaler au passage que cette idée que la médiation serait corrompue, même l'art, le théâtre serait corrompu, c'est assez dangereux. Parce que ça cultive aussi tous les populismes. Parce que à partir du moment où tout le monde est pourri, et nous sommes un peu dans cette situation aujourd'hui.
Pauline Bay, vous n'avez pas l'air d'être d'accord.
Il y a des purs quand même dans Les Hommes perdus. Il y a des purs. Il y a Daniel d'Arthez, tous les personnages du Cénacle.
Oui, mais
Coralie, pour moi, est un diamant pur, d'une pureté absolue.
Fort heureusement, bien sûr. Mais le système lui-même paraît impur. Hein. Et pourquoi pas? Mais appliqué à la situation actuelle, comme d'ailleurs à la situation de l'époque, on peut dire que la conclusion philosophique de tout ça est elle-même, à mon avis, impure. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. Parce qu'il n'y a aucune raison de penser qu'il y a des purs absolus et des impurs absolus non plus. Hein.
Moi, je ne dirais pas que c'est impur, le système est impur. Je dirais que le système est ce qu'il est, il est complexe, et que lancer dedans... Chacun trace sa route comme il peut, mais je sens pas ça. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez.
Xavier Giannoli.
Mais c'est assez énervant. Balzac, dans sa préface d'ailleurs, dit « Mais pourquoi est-ce qu'on pourrait se moquer des médecins? Pourquoi est-ce qu'on pourrait se moquer de plein de corps de métier ?» Et que dès qu'on touche au journalisme, on est taxé de faire, pour reprendre cette parole clicheteuse, le jeu des extrêmes. Moi, je pense que les lecteurs, à l'époque ou aujourd'hui, et les lecteurs d'ailleurs en un seul mot aussi, est tout à fait capable de mettre à distance la satire et de simplement éveiller dans son cœur et dans son cerveau un esprit critique sur la critique et sur le journalisme. C'est plutôt une parole, je trouve, positive et humaniste de se dire que c'est pas parce que quelqu'un nous dit quelque chose qu'on va le croire. Et c'est pas pour ça, et c'est pas non plus parce qu'on est sceptique qu'on est intelligent. Le génie balzacien, c'est justement d'éveiller une ironie, ça s'appelle comédie humaine, sur toute cette société du commentaire. Ce n'est pas parce qu'on doute qu'on est poujadiste, ce n'est pas parce que on a une adhésion qu'on est... Et puis, vous savez, pour finir, il faut pas, je pense, faire une confusion sur le mot journalisme. C'est que Balzac, lui, parle des critiques. Il parle pas de la grande presse. C'est pas comme si aujourd'hui, il parlait des gens qui écrivent au Monde ou qui travaillent sur France Inter. Il parle de... Il parle de petits critiques qui sont des gangsters. Mais quand même, il voit ce moment où, tout simplement, la presse va devenir un commerce.
Bon,
et qu'à partir du moment où ça devient un commerce, il le dit lui-même, ce deviendra un commerce sans foi ni loi.
En tout cas, c'est pour cela que, effectivement, et votre film Xavier Giannoli et votre pièce Pauline Bayle, intéressent les historiennes et les historiens, pas parce que ça parle de passé, mais parce que ça nous fait parler aujourd'hui. Cette émission a été préparée par Aurore Juvenel et réalisée par Xavier Pestugier. La technique était assurée aujourd'hui par Maxime Goudard. La semaine prochaine, nous parlerons du Moyen-Âge avec le cinéaste Alexandre Astier et l'historienne Zrinka Stahuljak. Bon dimanche sur France Inter. Dans quelques minutes, direction les Champs de Lorraine, du Grand Air et une odeur de lait de foin avec CO2, Mon Amour et Denis Chessou.